Ce devait d'ailleurs être pour mademoiselle de la Ville-Audrey, la dernière faveur de la destinée. Cette avance suprême qui, si on ne sait pas la saisir, ne se représente plus. De ce moment, et irrévocablement, elle se trouvait engagée sur cette pente vertigineuse qui mène aux abîmes, et de plus en plus, elle devait voir son horizon se rétrécir et s'assombrir. Elle s'était juré la fortunée d'épargner le peu d'argent qui lui restait comme le sang même de ses veines. Mais comment épargner? Tout lui manquait, surtout l'indispensable. Lorsqu'il était venu louer ce taudis, M. de Brévent n'avait rien prévu. Ou plutôt si. Et ce calcul était bien digne de sa froide scélératesse. Il avait pris ses mesures pour que sa victime fût dénuée de tout à la fois. Sans autre vêtement que ceux qu'elle portait lors de sa fuite, elle se trouvait sans linge, sans chaussures, n'ayant pour essuyer ses mains que les serviettes que lui louait la portière. Pour elle, accoutumée à toutes les recherches du luxe et au raffinement d'une exquise propreté, ses privations devaient constituer un intolérable supplice. C'est ainsi qu'elle dépensa en achats de tout genre 150 francs. 150 francs quand déjà elle pouvait, pour ainsi dire, calculer l'heure où le pain lui manquerait. D'un autre côté, elle avait chaque jour 5 francs à donner à la Chauvassa pour sa nourriture. 5 francs, une somme énorme et qui la révoltait car elle eût consenti avec joie à ne vivre que de pain et d'eau. Mais là-dessus, toute économie lui paraissait impossible. Un soir, s'étant avisée d'insinuer qu'il lui faudrait peut-être réformer cette dépense, la Chauvassa l'avait enveloppée d'un regard si venimeux qu'elle s'en était sentie froid jusqu'à la moelle des os. « Il faut en passer par là », s'était-elle dit. Dans son esprit, ces 5 francs étaient comme une rançon quotidienne dont elle payait les bonnes grâces de l'estimable concierge. Il est vrai qu'à ce prix, la Chauvassa était aux petits soins pour sa pauvre chatte, car c'est ainsi qu'elle appelait définitivement mademoiselle de la Ville-Audrey, devenant de jour en jour plus envahissante, ajoutant aux tortures de la pauvre fille le supplice de son odieuse et irritante familiarité. Maintes fois, mademoiselle Henriette, indignée et froissée, avait été sur le point de se révolter. Jamais elle n'avait osé, se résignant à ses outrageantes privautés pour la même raison qu'elle se soumettait à l'impôt de 5 francs par jour. Et l'autre, prenant ce silence pour un assentiment, ne se gênait plus guère. Elle ne pouvait comprendre, déclarait-elle, que sa pauvre chatte, jeune et jolie comme elle l'était, consentit à vivre comme elle faisait. Était-ce une existence, cela? Puis toujours, elle finissait par en revenir à M. Maxime, lequel continuait à venir aux informations 2 fois par jour, le pauvre jeune homme. « Et même ma pauvre chatte, ajoutait-elle, vous verrez qu'il prendra son courage à 2 mains et qu'il viendra vous présenter ses excuses. » Mais cela, mademoiselle Henriette ne pouvait le croire. « Jamais il n'aura cette impudence extraordinaire, pensait-elle. » Il l'eut cependant. Un matin, elle achevait de mettre en ordre son petit ménage quand on frappa discrètement à la porte. Persuadée que c'était la portière qui lui montait son déjeuner, elle se hâta d'ouvrir sans demander qui était là. Et elle recula, stupide d'étonnement et de terreur en reconnaissant M. de Brévent. Véritablement, il semblait se faire une violence extraordinaire. Il était livide, ses lèvres blêmes tremblaient, son œil trouble vacillait, et il remuait la mâchoire comme s'il eut du gravier en guise de salive dans la bouche. « Je suis venu, mademoiselle, commença-t-il, vous demander si vous avez réfléchi depuis l'autre jour. » Elle ne lui répondit pas, l'écrasant d'un regard qui eût fait rentrer sous terre un homme conservant quelques sentiments d'honneur. Mais il avait dû, en venant, s'armer contre le mépris. « Je sens, poursuivit-il, que ma conduite doit vous paraître abominable. Je vous ai attiré dans un piège odieux. Je trahis indignement la confiance d'un ami, mais j'ai une excuse. Une passion plus forte que ma volonté et que ma raison. La passion vile de l'argent. Libre à vous de le croire, mademoiselle. Je ne chercherai pas à me disculper, je ne suis pas ici pour cela. » J'y suis pour vous faire toucher du doigt votre situation que vous ne me paraissez pas comprendre. Si elle n'eût écouté que son inspiration, mademoiselle de la Ville-Audrey eût chassé le misérable. Mais il lui importait, croyait-elle, de connaître sa pensée et ses intentions. Elle surmonta donc son dégoût et se tut. Tout d'abord, poursuivit Monsieur de Brévent qui semblait se remettre, retenez bien ceci, mademoiselle. Vous êtes perdue de réputation et perdue par moi. Tout Paris, à 7 heures, est persuadé que je vous ai enlevé et que nous cachons nos amours au fond de quelques délicieuses retraites, que vous êtes ma maîtresse en un mot. Il s'attendait à une terrible explosion d'indignation, point, mademoiselle Henriette demeura de marbre. Que voulez-vous, reprit-il d'un ton de persiflage, mon cocher a parlé. Deux de mes amis qui arrivaient à pied à la fête de votre père vous ont vu, sautant dans ma voiture. Et comme si le scandale n'eût pas été suffisant, cet imbécile de Sir Tom m'a provoqué publiquement, nous nous sommes battus et je l'ai blessé. À la façon dont la jeune fille haussa les épaules, Monsieur de Brévent vit bien qu'elle ne le croyait pas. C'est pourquoi, tirant un journal de sa poche, « Si vous doutez, mademoiselle, ajouta-t-il, daignez lire ceci, tenez, là, en haut de la seconde colonne. » Elle prit le journal qui lui tendait et en effet lut. « Hier, au bois de Vincennes, une rencontre à l'épée a eu lieu entre Monsieur M. de B. et l'un des plus honorables membres de la colonie américaine, Sir T.E. Après 5 minutes d'un combat fort vif, Sir E. a été blessé au bras. La soudaine et très surprenante disparition d'une des plus riches héritières du faubourg Saint-Germain ne serait pas, assure-t-on, étrangère à ce duel. L'heureux de Monsieur de B. saurait, dit-on trop bien au gré de la famille, où se cache la belge fugitive. Mais c'en est assez, n'est-ce pas, sur une aventure que va dénouer avant peu un bel et bon mariage. « Vous voyez, mademoiselle, » fit Monsieur de Brévent, quand il pensa que mademoiselle Henriette avait eu le temps de lire. « Ce n'est pas moi qui conseille un mariage. Devenez ma femme et votre honneur est intact. »« Ah, monsieur !» Et dans cette seule exclamation, il y avait tant de mépris et un si profond dégoût que Monsieur de Brévent en pâlit encore s'il était possible. « C'est donc que vous préférez épouser Sœur Elgin, » fit-il. Elle haussa les épaules, mais lui... « Oh, ne raillez pas, » poursuivit-il, « lui ou moi, il n'est pas pour vous d'autre alternative. Tôt ou tard, il vous faudra choisir. »« Je ne choisirai pas, monsieur. »« Oh, attendez que la misère soit venue. »« Alors, vous pensez peut-être qu'il vous suffira d'implorer votre père pour qu'il vienne à votre secours. »« Détrompez-vous. Votre père n'a d'autre volonté que celle de la comtesse Sarah, et la comtesse Sarah veut que vous épousiez Sir Tom. »« Je n'implorerai pas mon père, monsieur. »« C'est donc que vous comptez pour votre salut sur le retour de Daniel. » « Ah, croyez-moi, ne vous bercez pas de chimères. Daniel, je vous l'ai dit, aime la comtesse Sarah. Et ne l'aima-t-il pas? Vous êtes trop compromise pour que jamais il vous donne son nom. Mais ce n'est encore rien. Allez au ministère de la Marine, on vous dira que la campagne de la conquête doit durer 2 ans encore. Lors donc que Daniel reviendra, s'il revient jamais, ce qui n'est pas prouvé, vous serez Madame de Brévent ou Miss Jean, à moins que... » Mademoiselle Henriette arrêta sur lui un regard dont il ne put supporter l'étrange fixité et d'une voix profonde. « À moins que je ne sois morte, n'est-ce pas » dit-elle. « Soit. » Froidement, M. de Brévent inclina la tête comme pour répondre. « Oui, à moins que vous ne soyez morte, c'est bien cela. » Puis, ouvrant la porte, « Laissez-moi espérer, mademoiselle, prononça-t-il, que ce n'est pas là votre dernier mot. J'aurai du reste l'honneur de me présenter à vous chaque semaine pour connaître votre volonté. » Et saluant, il se retira. Qui l'a menée, le misérable, que veut-il encore de moi? Ainsi, dès qu'elle fut seule, la porte refermée, mademoiselle de la Ville-Audrey s'interrogeait avec un redoublement d'angoisse. Car elle ne croyait pas un mot des prétextes invoqués par M. de Brévent pour expliquer sa visite. Non, elle ne pouvait admettre qu'il fût venu pour savoir si elle avait réfléchi, ni qu'il caressa, comme il le prétendait, cette espérance abominable que la misère, la peur, la faim la jetteraient entre ses bras. « Il doit me connaître assez, » pensait-elle avec un frémissement de colère, « pour être certain que je préférerais 1000 morts. » Donc, il fallait que cette démarche, qui très visiblement lui avait été atrocement pénible, lui fût commandée par quelque impérieuse considération. Mais laquelle? Avec une contention d'esprit extraordinaire, Mademoiselle Henriette reprenait une à une et analysait toutes les phrases de M. de Brévent, espérant qu'un mot l'éclairerait, mais elle ne découvrait rien. Tout ce qu'il lui avait dit des conséquences de sa fuite, elle l'avait prévu avant de s'y déterminer. Il ne lui avait appris de nouveau que son duel avec Sir Thomas Elgin, et en y réfléchissant, elle le trouvait tout naturel. Ne combattait-il pas avec une âpreté pareille la fortune qu'elle devait recueillir du chef de sa mère à sa majorité? L'antagonisme de leurs intérêts expliquait, pensait-elle, leur haine. Car elle s'était bien persuadée qu'ils se haïssaient mortellement. L'idée que Sir Tom et M. de Brévent s'entendaient et poursuivaient un but commun ne pouvait lui venir. Et lui fut-elle venue, elle l'eût repoussée comme absurde. Devait-elle donc s'arrêter à cette conclusion que M. de Brévent n'avait eue, en se présentant devant elle, d'autre dessein que de porter au comble son épouvante? Mais à quel propos, pourquoi, à quel bénéfice lui en reviendrait? L'homme qui convoite une jeune fille ne prend pas à tâche de la glacer d'horreur et de lui inspirer le plus insurmontable dégoût par des procédés immondes capables de faire reculer les scélérats les plus dégradés. Ainsi avait pourtant agi M. de Brévent. Donc, il visait tout autre chose que ce mariage dont il parlait. Quoi, cependant? On ne commet pas de si abominables actions pour l'unique plaisir de les commettre, surtout quand elles exposent à un danger positif. Or, il était clair qu'au retour de Daniel, qu'il aimât encore ou non mademoiselle de la Ville-Audrey, M. de Brévent aurait un terrible compte à rendre à ce loyal marin qui lui avait confié l'honneur de sa fiancée. M. de Brévent ne songeait-il donc jamais à ce retour? Aussi, il les pensait, et avec de secrètes terreurs. Il n'en fallait d'autre preuve qu'une phrase qu'il avait laissée échapper. Après avoir dit « Quand Daniel reviendra », il avait ajouté « S'il revient toutefois, ce qui n'est pas prouvé ». Pourquoi cette restriction? Avait-il donc des raisons particulières de croire que Daniel périrait pendant cette dangereuse campagne? Maintenant, elle se rappelait, oui, elle se rappelait positivement avoir vu un sourire monter aux lèvres blêmes de M. de Brévent pendant qu'il disait cela. Et à ce souvenir effrayant, elle se sentait défaillir. N'était-il pas capable de tout, le misérable qu'il avait si épouvantablement trahi, de tout, même d'armer le bras d'un assassin? Oh, il faut prévenir Daniel, s'écria-t-elle, il le faut, sans perdre une minute. Et bien qu'elle lui ait écrit longuement le jour d'avant, elle lui écrivait encore pour le supplier de se défier, de veiller sur lui parce que sûrement sa vie était menacée. Et cette lettre, elle la porta elle-même à la poste, persuadée que la confier à la Chevassa, ce serait la livrer à M. de Brévent. Dieu sait cependant si de plus en plus l'estimable portière semblait s'attacher à elle et devenait expansive et démonstrative en son dévouement. À tout instant du jour, sous le premier prétexte venu, elle arrivait chez Mademoiselle Henriette, s'asseyait, et durant des heures entières, l'étourdissait de son insupportable flux labial. Elle ne se gênait plus aucunement en parlant, disait-elle à cœur ouvert à sa petite chatte, comme elle lui parlait à sa propre fille. Les étranges théories qu'elle laissait seulement entrevoir autrefois, elle les exposait désormais sans embarras, se carrant dans une sorte de cynisme naïf qui trahissait de surprenantes perversions de sens moral. C'était à croire que cette détestable mégère avait reçu des ennemis de la pauvre jeune fille la mission de la démoraliser, de la dépraver s'il était possible, et de la pousser à ce cloaque du vice, brillant et facile, où roulent tant de malheureuses. Seulement, s'il en était ainsi, le choix dans l'embaucheuse n'était pas heureux. L'éloquence de la Chevassa, qui très probablement eut mis le feu à l'imagination d'une grisette ambitieuse, ne pouvait que soulever de dégoût le cœur de Mademoiselle de la Villaudrie. Elle s'était accoutumée à penser à autre chose pendant que pérorait la concierge, et son âme fière planait à des hauteurs où ne pouvaient l'atteindre ses souillures. Son existence n'en était pas moins d'une mortelle tristesse. Elle ne sortait jamais, passant ses journées dans sa chambre à lire ou à travailler à un grand travail de broderie, chef-d'œuvre de patience et de goût qu'elle avait entrepris avec l'arrière-pensée qui lui serait peut-être une ressource en sa détresse. Mais un souci nouveau ne devait pas tarder à la tirer de cet engourdissement. Son argent diminuait, et un matin vint où elle changea le dernier louis de ses 900 francs. Recourir encore au mont-de-piété était urgent, car on était au premier jour d'avril, et la doucereuse portière lui avait donné à entendre qu'elle ferait sagement de se mettre en mesure pour pouvoir le 8 payer son terme qui était de 100 francs. Elle confia donc au sieur Chevassa là-bas qui lui restait pour qu'il allât l'engager. Calculant d'après la somme qu'elle avait eue de la première, elle estimait que sur celle-ci, on lui avancerait bien 25 à 30 louis pour le moins. Le portier lui rapporta 190 francs. Tout d'abord, elle fut persuadée que cet homme l'avait volée, et elle le laissa voir. Mais lui, d'un air furieux, exhiba la reconnaissance. « Regardez, dit-il, et sachez mieux à qui vous parlez. » Sur la reconnaissance, en effet, on lisait en toutes lettres, « Somme avancée, 200 francs. » Convaincue de la justice de ses soupçons, Mademoiselle Henriette dut faire des excuses, et c'est à peine si une pièce de 10 francs calma la colère du susceptible Chevassa. Hélas, la pauvre fille ignorait qu'on est toujours libre de n'engager un objet que pour une portion de sa valeur. Et elle était trop inexpérimentée pour reconnaître sur la reconnaissance les traces de cette opération. N'importe. Pour Mademoiselle de la Villaudrée, c'était là, et elle ne le sentait que trop, un de ces désastres dont on ne se relève pas. C'était 2 mois d'existence de moins. Le temps peut-être dont il s'en faudrait qu'elle pût attendre le retour de Daniel. Cependant, le jour du terme arriva, et elle donna 100 francs en échange de sa quittance de loyer. Et le surlendemain, elle se trouvait de nouveau sans argent, et selon l'expression de la Chevassa, réduite à s'en prendre à ses propres affaires. Mais le monde de piété avait trop cruellement trompé ses calculs pour qu'elle consentît à y recourir encore et à s'exposer à une seconde déception. Elle résolut non plus d'engager, mais de vendre le nécessaire de toilette en or que contenait son sac de voyage, et elle pria son obligeante portière de lui chercher un acheteur. Tout d'abord, la Chevassa éleva beaucoup d'objections. Vendre ce nécessaire si joli, disait-elle, quel meurtre! Songez que vous ne le reverrez plus jamais. Si vous le portiez au clou, au contraire, dès qu'il vous viendrait un peu d'argent, vous le dégageriez. Elle perdait ses peines, elle le reconnut. Et se résignant, elle finit par amener une espèce de marchand à la toilette de ses amis, un brave homme fini, affirmait-elle, en qui on pouvait avoir la confiance la plus absolue. Et véritablement, Il se montra digne de cette chaude recommandation en proposant du premier coup 500 francs de ce nécessaire qui ne valait pas beaucoup plus du tri. Encore n'était-ce pas son dernier mot. Après une heure de débat irritant, après 10 fausses sorties, il tira en soupirant son porte-monnaie et compta sur la table les 35 louis qu'avait impérieusement exigé Mademoiselle Henriette. C'était de quoi payer 4 mois de pension à la Chevassat. Mais non, se dit la pauvre jeune fille, non. Ce serait trop de pusillanimité à la fin. Et le soir même, rassemblant à un grand effort tout son courage, elle déclara d'un ton ferme à la redoutable mégère qu'elle ne lui prendrait plus qu'un repas le soir. Elle avait trouvé ce moyen terme pour éviter non une scène, elle en attendait une, mais une brouille complète. Contre toute attente, cependant, l'honorable portière ne parut ni surprise ni choquée. Elle haussa seulement les épaules en disant « Comme vous voudrez, ma petite chatte. Seulement, croyez-moi, les économies qu'on fait sur son estomac ne profitent pas. » C'est à la tête de ce coup d'état que Mademoiselle Henriette prit l'habitude de descendre chaque matin pour acheter le petit pain et le dessous de lait qui constituèrent désormais son déjeuner. Le reste du temps, elle ne bougeait de sa chambre, s'acharnant au travail de broderie qu'elle avait entrepris, et rien ne troublait la désolante monotonie de ses journées que la visite hebdomadaire de M. de Brévent. Car elle n'oubliait pas sa menace, et chaque semaine, Mademoiselle Henriette était sûre de le voir apparaître. Il arrivait d'un air grave et froidement lui demander si elle avait réfléchi depuis qu'il avait eu l'honneur de lui présenter ses hommages. Elle ne lui répondait d'ordinaire que par un regard de mépris, mais il n'en semblait aucunement déconcerté. Il saluait respectueusement et invariablement disait avant de se retirer « Ce sera donc pour une autre fois, j'attendrai. Oh, j'ai le temps d'attendre. » S'il espérait ainsi réussir à réduire plus vite Mademoiselle Henriette, il se trompait grossièrement. Cette insulte périodique était un stimulant qui entretenait sa colère et fouettait son énergie. Son orgueil s'exaspérait à l'idée constante de la lutte engagée et elle se jurait qu'elle en sortirait victorieuse. C'est de ce sentiment que lui vint la pensée d'une démarche dont les résultats devraient avoir sur l'avenir une influence décisive. On était alors à la fin de juin et elle ne voyait pas sans effroi diminuer son petit trésor quand un matin, jugeant la Chevassat de belle humeur, elle se hasarda à lui demander si elle ne pouvait pas lui procurer de l'ouvrage, se disant très adroite à tous les travaux de femme. Mais l'autre, dès les premiers mots, s'était mise à rire. « Laissez-moi donc tranquille, interrompit-elle. Est-ce que des mains comme les vôtres sont faites pour travailler ?» Et comme Mademoiselle Henriette insistait, montrant comme preuve de son habileté la broderie qu'elle avait entreprise, « C'est très joli cela, fit la concierge, mais à broder du matin au soir, une fée ne gagnerait pas la nourriture d'un chardonneret. » Il devait y avoir du vrai dans cette exagération, la pauvre fille le soupçonnait. Aussi, se hâta-t-elle d'ajouter qu'elle était capable de beaucoup d'autres choses. Elle était très bonne musicienne, par exemple, et donnerait très bien des leçons de piano ou de chant si on lui procurait des élèves. À ces mots, l'éclair d'une joie diabolique traversa les petits yeux de l'honorable portière. « Quoi ? Vous sauriez faire danser, ma petite chatte ? » s'écria-t-elle. « Comme ces artistes qui vont jouer du piano dans les bals du monde ? Certainement. » « Tiens, tiens, c'est un talent. Pourquoi ne m'en avez-vous pas parlé plus tôt ? Je m'occuperai de ça, vous verrez. Fiez-vous à moi. » Le samedi suivant, en effet, dès le matin, elle parut chez Mademoiselle Henriette avec l'air joyeux d'une messagère de bonnes nouvelles. « J'ai pensé à vous, dit-elle dès le seuil. Ah ? Il y a une locataire de la maison qui donne une grande soirée aujourd'hui. Je lui ai parlé de vous et elle m'a dit qu'elle vous paierait 30 francs pour faire sauter sa société. 30 francs, c'est une somme cela ! Sans compter que si on est satisfait de vous, ça attirera les pratiques. À quel étage demeure cette locataire ? Au second, l'appartement du fond sur la cour, Madame Hilaire. Une personne très distinguée et qui n'a pas sa pareille pour la bonté du cœur. Il faudrait y être à 9 heures précises. J'y serai. Toute heureuse et pleine d'espoir, Mademoiselle Henriette passa une partie de l'après-midi à restaurer son unique robe. Une robe de soie noire bien usée, hélas, et déjà toute reprisée. Pourtant, à force d'industrie et de patience, elle s'était composé une toilette presque présentable quand, sur le coup de 10 heures, elle sonna chez Madame Hilaire. On l'introduisit dans un salon étrangement meublé de meubles hétéroclites, mais fort brillamment éclairé, où 7 ou 8 jeunes femmes en toilette extravagante et autant de messieurs à gilets à cœur fumaient en prenant du café. Dames et messieurs sortaient de table, on le reconnaissait à leurs yeux et aux éclats de leur voix. « Tiens, c'est la pianiste du 5e !» s'écria une grande femme brune, jolie et encore plus commune, qui devait être Madame Hilaire. En s'adressant à Mademoiselle Henriette, « Voulez-vous prendre un verre de quelque chose, ma petite biche » demanda-t-elle. Plus rouge que le feu et perdant contenance, La jeune fille refusait et s'excusait de refuser, quand l'autre l'interrompant brusquement. « Vous n'avez pas soif, dit-elle. Très bien, vous boirez plus tard. En attendant, vous allez nous jouer un quadrille, n'est-ce pas? Et mouvementé, n'est-ce pas ?» Puis, imitant avec une désolante perfection la voix enrouée des aboyeurs de bal public, « en place » râla-t-elle en place pour le quadrille. Mademoiselle de la Ville Audrey s'était assise au piano. Elle tournait le dos aux danseurs, mais devant elle était une glace où elle ne perdait pas un des gestes de Madame Hilaire et de ses invités. Et alors elle fut sûre de ce qu'elle avait soupçonné en entrant. Elle comprit dans quel monde l'avait jeté la chevassa. Elle eut cependant sur elle-même assez de puissance pour achever les quadrilles. Mais la dernière figure terminée, elle se leva et, s'avançant vers la maîtresse de la maison, « Veuillez m'excuser, madame, balbutia-t-elle une voix affreusement troublée. Il faut que je me retire, je me sens très malade, je ne saurais jouer. »« Comme c'est drôle !» s'écria un des messieurs. « Voilà notre nuit ratée !» Mais la jeune femme... « Taisez-vous, Jules. Ne voyez-vous pas qu'elle est pâle comme la mort, cette enfant ? Qu'avez-vous, ma belle biche ? C'est la chaleur qui vous a fait mal, n'est-ce pas ? On étouffe dans cette baraque. » Et mademoiselle Henriette se retirant. « Oh, attendez, reprit-elle, je ne dérange pas les gens pour rien, moi. Allons, Jules, fous-toi et donne-lui un louis à cette petite. » Déjà, la pauvre fille avait ouvert la porte. « Je vous remercie, madame, dit-elle, vous ne me devez rien. » Il était temps que mademoiselle Henriette sortît. À sa stupeur première, une colère folle succédait qui chassait à son cerveau des flots de sang et lui arrachait des larmes brûlantes. C'était la chevassa, cependant, qui lui avait tendu ce guet-apens ignoble. Qu'avait-elle donc espéré, la femme vieille ? Et emportée par un mouvement irrésistible, hors d'elle-même, elle se précipita à travers les escaliers et entrant comme l'ouragan dans la loge de la dangereuse portière. « Chez quelles gens m'avez-vous envoyé ? » lui cria-t-elle. « Vous le saviez, vous êtes une misérable !» Ce fut le sieur Chauvassa qui se dressa. « Qu'est-ce que c'est ? » commença-t-il. « À qui croyez-vous parler ?» Mais du geste et de la voix, sa femme l'interrompit et s'adressant à mademoiselle Henriette. « Eh bien, après ? » fit-elle avec un ricanement cynique. « Est-ce qu'ils ne vous valent pas, ces gens-là ? D'abord, moi, j'en ai plein le dos de vos manières, ma chatte. Quand on est bégueule tant que cela, on reste chez ses parents, comme toutes les filles sages, et on ne se fait pas enlever pour courir la prétentraine avec des amoureux. » Sur quoi, profitant de ce que mademoiselle Henriette était restée presque sur le seuil de la loge, elle la poussa dehors brutalement, au risque de la jeter à terre et violemment referma sa porte. Une heure plus tard, la fortunée se reprochait amèrement son emportement. « Hélas !» se disait-elle en pleurant, « les faibles, les malheureux n'ont pas le droit de se révolter. Qui sait ce que cette méchante créature va faire pour se venger ?» Elle le sut le surlendemain matin. Descendant un peu avant 7 heures pour chercher le pain et le lait de son déjeuner, elle se trouva sous la porte cochère, face à face avec Madame Hilaire qui rentrait. À la vue de la jeune fille, cette irascible dame devint plus rouge qu'une pivoine, et bondissant jusqu'à elle, lui saisit le bras qu'elle secoua furieusement en criant de toute la force de ses poumons. « C'est donc vous, gueuse, qui allez me vilipender chez mes concierges ? Quel malheur ! Une mendiante que j'avais fait venir chez moi pour lui faire gagner 30 francs, et moi qui la croyais malade, qui la plaignais et qui voulait que Jules lui donnât un louis !» Ce n'était pas à cette femme, en effet, que mademoiselle Henriette devait en vouloir. Elle lui avait témoigné de la pitié, après tout. Fort effrayée, cependant, elle essayait de se dégager, mais l'autre tenait bon, redoublant ses cris jusqu'à ce point que plusieurs locataires se mirent aux fenêtres. « On te revendrait ça, ma biche » clamait-elle au milieu des injures malpropres que sa colère, pareil à un torrent d'eau de vaisselle charriée. « On saura bien te faire déguerpir d'ici. » Et ce n'était pas une menace en l'air. L'après-midi même, cette scène lamentable se renouvelait et elle recommençait tout aussi odieuse le lendemain et encore les jours suivants. Madame Hilaire avait des habits dans la maison et mademoiselle de la Ville Audrey était devenue leur bête noire à tous. Elle s'entendait pour la guetter et dès qu'elle se risquait dans les escaliers, ils en trouvaient toujours quelqu'une pour la huer. Si bien que l'infortunée n'osait plus sortir de chez elle. Dès le matin, sitôt la porte de la rue ouverte, elle courait acheter ses petites provisions de la journée. Puis remontant bien vite, elle se barricadait dans sa chambre et n'en bougeait plus. Assurément, ce n'était pas le désir de quitter cette maison maudite qui lui manquait, mais où aller ? Puis l'inconnu l'épouvantait. Ne lui réserverait-il pas des tribulations plus intolérables encore ? Enfin, elle n'avait pas d'argent. Le terme de juillet lui avait enlevé son franc. Elle avait dû remplacer par une robe de mérinos noire sa robe de soie qui tombait en loques. Dès les premiers jours d'août, ses gétives ressources étaient épuisées. Encore ne fut-elle pas parvenue à la faire durer tout ce temps si depuis la soirée de Madame Hilaire, elle ne cessait complètement de recourir à la dispendieuse cuisine de la Chevassa. Même cette rupture, dont Mademoiselle Henriette s'était d'abord réjouie, devint maintenant pour elle le sujet d'un prodigieux embarras. Il lui restait plusieurs choses encore à vendre, sa broche, son cachemire, sa montre, ses boucles d'oreilles, et elle ne savait ni comment ni à qui les vendre. Tous les récits dont la chevassa l'avait effrayée dans sa tentative au mot de piété roulaient dans son esprit. Et elle se voyait, à la moindre démarche, arrêtée par un commissaire de police, interrogée et reconduite chez son père et livrée à la comtesse Sarah et à Sir Tom. Cependant, la nécessité devenait si impérieuse qu'après de toutes hésitations, un soir, à la brune, elle se glissa dehors pour chercher un acheteur. Ce qu'elle cherchait, c'était l'une de ces boutiques bornes où on aperçoit, attendant leur proie, de ces brocanteurs suspects dont les trafics inquiètent l'observateur. Elle en trouva une telle qu'elle la souhaitait. Une vieille femme, à lunettes, plantée sur un nez crochu, sans seulement lui demander son nom, tant évidemment elle la prenait pour une voleuse, lui donna, de sa broche et de ses boucles d'oreilles, 140 francs. Qu'était-ce que cette somme ? Rien. Mademoiselle Henriette le comprit. C'est pourquoi, surmontant toutes ses répugnances et toutes ses pudeurs, et s'armant d'une résolution désespérée, elle se jura de tout tenter pour se procurer de l'ouvrage. Et elle se tint parole. Soutenue par le secret espoir de triompher à force d'énergie, de l'acharnement de la destinée, elle s'en alla de magasin en magasin, de porte en porte, pour ainsi dire, sollicitant de l'ouvrage comme elle lui demandait la charité, promettant de s'employer à ce qu'on voudrait, tant qu'on voudrait, pourvu qu'on la nourrit et qu'on la logeât. Mais il était écrit que tout tournerait contre elle. Et sa beauté, le charme et la distinction de sa personne, sa façon même de s'exprimer, lui étaient autant d'obstacles. Qui donc eût voulu employer cette jeune fille qui avait l'air d'une duchesse ? Si bien que ses prières n'ont rencontré que visage froid, haussement d'épaule et sourire ironique, et partout des refus. À moins cependant que quelques galants commis ne répondit à sa requête par une déclaration. Le hasard lui avait fait découvrir ces petits habits à la main que les entrepreneurs collent sur tous les tuyaux d'eau ménagère de leur quartier pour demander les ouvrières. Dès lors, elle passa ses journées à chercher ses habits et à courir aux adresses indiquées. Mais là, les mêmes difficultés se présentaient, puis c'était des questions à n'en plus finir. Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? Chez qui avez-vous travaillé ? Et toujours la même conclusion désolante. Nous n'avons pas d'ouvrage pour une personne comme vous. Alors, elle eut recours au bureau de placement. Elle en avait avisé un ayant à sa porte un grand tableau où il était offert des emplois pour toute capacité, depuis 35 jusqu'à 1000 francs par mois. Elle y monta. Un monsieur très verbeux, après lui avoir fait déposer une certaine somme, lui jura qu'il avait son affaire et la fit revenir 10 fois inutilement. À la 11e, après une nouvelle consignation, il lui remit l'adresse de 2 maisons, affirmant que dans l'une ou dans l'autre, elle se caserait avantageusement. Ces 2 maisons étaient 2 débits de prunes où on demandait des demoiselles de comptoir pour verser les petits verres et attirer la pratique. Ce devait être la dernière tentative de mademoiselle de la Villaudry. Depuis 10 mois qu'elle se débattait avec une sorte de furie au milieu d'inextricables difficultés, les ressorts de son énergie peu à peu s'étaient détrempés. Et maintenant, courbaturée de corps et d'esprit, accablée, vaincue, anéantie, elle s'abandonnait. 18 mois séparaient encore mademoiselle Henriette de sa majorité. Depuis qu'elle s'était enfuie de la maison de son père, elle n'avait pas reçu de lettre de Daniel, bien qu'elle lui eût écrit souvent, et elle ne pouvait même assigner une date à son retour. C'est qu'elle avait suivi le conseil de M. de Brévent, et que résolument elle s'était présentée au ministère de la Marine pour demander des nouvelles de la conquête. Et un commis lui avait répondu d'un ton insouciant que la campagne de cette frégate durait peut-être encore 1 an ou 2. Était-il possible que l'infortunée attendît jusque-là ? Non. Dès lors, pourquoi s'obstiner à une lutte impossible ? À quoi bon disputer avec tant d'acharnement quelques jours d'une tristesse affreuse ? Sa santé, d'ailleurs, n'avait pu résister à tant d'assauts. Elle ressentait dans la poitrine de douleurs aiguës. Elle toussait, et dès qu'elle avait fait 10 pas, ses jambes flageolaient et elle était inondée d'une sueur froide. Presque toutes ses journées, elle les passait au lit, grelottant la fièvre ou plongée dans une invincible somnolence, le cerveau peuplé de visions funèbres. En elle, il lui semblait sentir se tarir les sources mêmes de la vie, comme si tout son sang, goutte à goutte, se fût écoulé par une blessure ouverte. Si je pouvais m'éteindre ainsi, pensait-elle. C'était la suprême grâce qu'elle implorait de Dieu. Un miracle seul pouvait la sauver désormais, et elle ne le souhaitait même pas. Une universelle indifférence et un immense dégoût de tout emplissaient son âme. Il lui semblait qu'ayant épuisé ce qu'on peut endurer, il ne lui restait plus rien à redouter. Et en effet, un dernier malheur qui s'abattit sur elle ne lui arracha pas un soupir. Un après-midi, pendant qu'elle était descendue, laissant sa fenêtre entrouverte, le vent brusquement poussa les battants, lesquels, heurtant une chaise, la renversèrent. Sur le dos de cette chaise était plié le cachemire de Mademoiselle Henriette. Il tomba dans la cheminée où il y avait du feu. Et quand elle remonta, elle le trouva à demi consumé. C'était l'unique objet de prix qui lui resta. Et elle en eut toujours bien retiré 25 louis. Baste, se dit-elle, qu'importe. Ces 3 mois de moins à vivre, voilà tout. Et elle ne s'en préoccupa plus. Et elle ne s'inquiéta pas davantage du terme d'octobre qui s'approchait. « Je ne pourrai le payer, se disait-elle. Chevassin me fera donner congé. Et alors, l'heure sera venue. » Cependant, à sa grande surprise, l'estimable portière ne lui fit aucune avanie de ce qu'elle n'était pas en mesure, et même elle lui dit qu'elle se chargeait de faire patienter le propriétaire. Cette inexplicable mansuétude donnait à Mademoiselle Henriette une semaine de répit. Mais enfin, un matin, elle s'éveilla, n'ayant plus un centime, n'ayant plus rien, croyait-elle, dont il pût faire de l'argent, et ayant faim. « Allons, murmura-t-elle, comme pour s'annoncer à elle-même la catastrophe suprême. C'est maintenant qu'il faut quelques minutes de courage. » Elle disait cela, mais avec la certitude affreuse que l'inexorable échéance était arrivée. Elle se sentait glacée d'horreur jusqu'en dans les moelles, comme si elle eût vu le bourreau entrer dans sa chambre pour lui signifier son arrêt de mort. Et cependant, depuis plus d'un mois, elle ne songeait qu'au suicide. Et la veille encore, elle trouvait comme une âpre jouissance à cette pensée. « Serais-je donc lâche ?» se disait-elle avec un mouvement de rage. Oui, elle avait peur. Oui, elle avait beau se représenter qu'il ne restait plus qu'à choisir entre la mort et Sir Tom ou Monsieur de Brévent. Elle était terrifiée. Hélas, elle n'avait pas 20 ans. Jamais elle n'avait senti en elle une telle exubérance de vie. Elle voulait vivre, vivre encore un mois, une semaine, un jour. Si son châle n'eût pas été brûlé, cependant. Alors, d'un œil égaré, explorant son misérable logis, elle aperçut ce chef-d'œuvre de patience qu'elle avait entrepris. C'était une robe de mousseline, tout ouvragée de broderie d'une merveilleuse finesse et d'un dessin exquis. Malheureusement, elle était loin d'être achevée. « N'importe, se dit-elle, je trouverai peut-être quelque chose. » Et roulant la robe à la hâte, elle courut l'offrir à la louche brocanteuse qui lui avait déjà acheté ses boucles d'oreilles et plus tard sa montre. L'affreuse vieille parut stupéfaite de cette merveille. « C'est très beau, déclara-t-elle, c'est magnifique, et si c'était fini, ça vaudrait beaucoup d'argent. Mais en cet état, personne n'en voudra. » Cependant, elle consentit à en donner 20 francs, uniquement par amour de l'art, jurait-elle, car c'était autant de perdu. Ce louis, c'était par Mademoiselle de la Ville-Audry un sursis inespéré. En voici pour un mois, pensait-elle, déterminée à ne vivre que de pain sec, et qui peut prévoir ce qu'un mois réserve d'événements. Et il devait revenir à cette infortunée du chef de sa mère plus de 1 500 000 francs. Si elle eût su, cependant, si elle eût eu un ami pour conseiller son inexpérience. Mais elle était restée fidèle à son serment de ne se confier à âme qui vive, et les plus épouvantables angoisses ne lui arrachaient pas une plainte. Monsieur de Brévent ne l'ignorait pas, lui qui, avec une implacable régularité, avait continué ses visites hebdomadaires. Et même, cette lâche obsession qui jadis enflammait le courage de Mademoiselle Henriette lui devenait un intolérable supplice. « Ah, je serai vengée, lui dit-elle un jour, prenez garde, Daniel reviendra. » Alors lui, haussant les épaules, « Si vous ne comptez que là-dessus, vous ferez bien de vous rendre et de devenir ma femme tout de suite. » Elle détourna la tête avec un mouvement d'insurmontable horreur. Plutôt les bras glacés de la mort. Et cependant, les pulsations de son cœur étaient pour ainsi dire comptées. Dès la fin de novembre, ses 20 francs s'étaient trouvés épuisés, et elle avait recours pour prolonger son existence aux expédients désespérés de la plus horrible détresse. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle pouvait sortir de son triste logis sans être arrêtée par les concierges, elle le vendit pièce à pièce, brin à brin, pour 20 sous, pour 10 sous, pour le prix d'une livre de pain. Son linge fut d'abord sacrifié, puis le tourbain des couvertures de son lit, de ses rideaux, de ses draps. Les matelas comme le reste y passèrent, la laine d'abord, emportée poignée par poignée, puis la toile. Et enfin, le 25 décembre, elle se trouva dans une chambre plus dévastée que si les feux y eût passé, n'ayant sur elle qu'un seul jupon sous sa mince robe d'alpaga, sans un haillon pour s'envelopper pendant les nuits glaciales. L'avant-veille, la terreur triomphante de ses résolutions, elle avait adressé à son père une longue lettre. Il n'y avait pas répondu. La veille, elle lui avait écrit ces lignes. « J'ai faim et je n'ai pas faim. Si demain, à midi, vous n'êtes pas venu à mon secours, à 1 heure, vous n'aurez plus de fille. » Et torturée par le froid et par le besoin, exténuée, déjà mourante, elle avait attendu. À midi, son père n'ayant pas paru, elle se donna jusqu'à 4 heures. À 4 heures, rien. « Il faut en finir, se dit-elle. » Ses précautions étaient prises. Elle avait prévenu la Chevassa qu'elle serait absente toute la soirée, et elle s'était procuré une assez grande quantité de charbon. Elle écrivit 2 lettres, l'une à son père et l'autre à Monsieur de Brévent. Après quoi, ayant hermétiquement bouché toutes les ouvertures de sa chambre, elle alluma deux réchauds, et s'étant étendue sur son lit, elle recommanda son âme à Dieu, 5 heures sonnées. Déjà, une vapeur épaisse et âcre s'était répandue dans la chambre, et la bougie ne donnait plus qu'une lueur blafarde. Bientôt, il lui sembla que ses tempes étaient comme serrées dans un étau. Elle étouffait, et elle avait envie de dormir, et elle sentait à l'estomac une intolérable douleur. Puis, des idées étranges et incohérentes, comme le délire, bouillonnèrent dans son cerveau. Les oreilles lui tintaient, son pouls battait avec une violence inouïe. Des nausées lui soulevaient le cœur, et par moments, elle croyait que d'épouvantables détonations faisaient voler son crâne en éclats. La bougie s'éteignit. Affolée par la sensation de la mort, elle essaya de se relever et ne put. Elle voulut appeler, sa voix ainsi qu'un râle expira dans sa gorge. Puis encore, ses idées se troublèrent tout à fait. La respiration lui manqua. C'était fini. Elle ne souffrait plus.